Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Si vous avez manqué la première heure, on parlait de l'importance d'être heureux au travail. Puis je vous encourage à écouter ça. Vous pouvez l'écouter plus tard aujourd'hui sur notre site Internet. Vous pouvez l'écouter pendant le temps des fêtes. L'important, c'est que vous réécoutez ça. C'est pourquoi? Parce que peut-être, comme Éric, ça va vous donner envie de vous prendre en main, de changer de métier, changer de carrière, retourner faire une formation. Éric me dit, il y a maintenant 2 ans, j'écoutais votre émission comme tous les jours. Ce jour-là, vous receviez aussi Jessica Joyal. On avait notre Jessica National, chasseur de tête, tout à l'heure, qui était là aujourd'hui. Et vous parliez du bonheur au travail. Ben oui, c'est récurrent, on en parle 1 fois 2 ans. C'est important quand même d'être heureux au travail. Il dit, vous m'avez botté le derrière, vous m'avez donné le courage de quitter l'organisation rendue corrompue qui me tuait à petit feu. J'ai joint une nouvelle organisation merveilleuse avec un meilleur salaire, plus d'autonomie, une meilleure reconnaissance, plus près de la maison en plus, mais surtout où je suis enfin heureux. Avant, je pleurais en allant travailler, mais depuis que j'ai fait ce changement, j'ai hâte au retour des vacances pour pouvoir retourner au travail. Un immense merci pour cette prise de conscience. Éric, ça nous fait grand plaisir. On est là pour ça. Et ça va peut-être donner envie à d'autres également de faire la même chose. Il y a Michelle qui m'écrit, elle, 57 ans, depuis son retour au travail en janvier 2014, après une année de traitement pour un cancer du sein. Elle dit qu'elle est passée d'emploi en emploi, non pas par choix, mais par grand malaise. Elle a vu un grand manque de respect envers les employés, les gestionnaires, toujours insatisfaits de tout. C'est incroyable, dit-elle, comme les employés sont souvent traités comme des matières jetables. Finalement, en octobre dernier, puis vous allez voir, c'est là la petite lumière. Là. Elle dit, j'ai trouvé ma niche. J'aime enfin ce que je fais. On m'apprécie. Je suis bien traitée. J'espère que ce sera mon dernier emploi jusqu'à ma retraite. Je vous le souhaite ardemment, Michel. Voyez-vous, là, il y a de la lumière au bout du tunnel. Nous allons parler maintenant, pour la prochaine demi-heure, de ce qui se passe sur la planète web. En fait, vous avez peut-être entendu parler de ça, ce fameux débat aux États-Unis où on va mettre fin à ce qu'on appelle la neutralité du web. Bon, ça, c'est une espèce... J'ai recherché ce terme-là, neutralité du web, là. Puis sincèrement, c'est un peu une espèce d'affaire fourre-tout qui veut pas dire grand-chose. En clair, là, ce que ça voudrait dire, c'est que les fournisseurs d'accès à Internet pourraient intervenir sur la vitesse, l'accès ou le contenu auquel ils vous donnent accès. Donc, vous allez peut-être devoir payer pour certains produits, certains sites, ou encore vous faire bloquer l'accès à d'autres sites qui sont gérés par des concurrents. En gros, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il se passe quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, puis qui est bien compliqué. Alors, on a pensé inviter 2 experts. Sylvain Patry, expert en technologie, vice-président exécutif chez Hostpapa. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Alain McKenna, qui est journaliste techno pour lesaffaires.com. Entre autres, merci Alain d'être là.
Ça fait plaisir. Bonjour.
Voulez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que ça veut dire? Essayez de mettre ça simple, parce que c'est vrai que ça a l'air quand même important de comprendre ça. Il paraît qu'aux États-Unis, là, c'est permis là maintenant. Là. Qu'est-ce qui vient de se passer, Sylvain?
Ben, essentiellement, la neutralité du web, c'est de garantir normalement l'accès, le contenu sur le web aussi, et la vitesse. C'est donc ces 3 composantes-là, ouais. On doit garantir que ça soit neutre. Donc, que les fournisseurs d'accès à Internet vous offrent une bonne vitesse, vous offrent évidemment l'accès à tous les contenus sur le web, et ce, au niveau international, et vous offrent évidemment la bonne vitesse, là, évidemment. Donc, vous pouvez télécharger les contenus qui sont sur Internet disponibles dans la plupart des pays. Ça, là, c'est une vérité de la palisse, là, je peux m'exprimer ainsi, mais il faut pouvoir garantir ça au grand public. C'est quasiment un service public, là, l'Internet, aujourd'hui. C'est aussi...
Clairement, là, c'est quasiment aussi important que l'air qu'on respire. Là.
Puis l'électricité aussi. Alors, il faut pouvoir garantir cela. Le Canada est au premier plan, d'ailleurs, et Justin Trudeau a même défendu la position du Canada là, pour garantir la neutralité du web. Donc, il faut pouvoir mettre...
Neutralité voulant dire, Alain, que... le web n'appartiendrait pas à des entreprises, c'est ça?
Essentiellement, oui, exactement. Ouais. C'est-à-dire que le fournisseur n'a pas à prioriser ses contenus au détriment des contenus d'autres services, de services concurrents qui ne sont pas nécessairement des fournisseurs. Le meilleur exemple, c'est Netflix, qui fournit du contenu et qui occupe une grosse partie de la bande passante de ces fournisseurs-là, qui ont eux aussi des services vidéo et qui trouvent un peu injuste de devoir supporter toute l'infrastructure Internet et pourtant ils la louent avec grand profit à leurs clients. Mais pendant ce temps-là, Netflix occupe une partie de cette bande passante-là, génère des revenus, font des gros profits que ces fournisseurs-là ne font pas. Donc, eux, ils sont pleins à la FCC, l'espèce de CRTC américain, qui lui a dit, bon, ben, c'est comme ça, on va enlever cette règle qui a été imposée en 2015 qui force les fournisseurs à ne pas avoir de mots à dire sur la nature du contenu qui est partagé sur leur
réseau. C'est ça qui s'est passé il y a quelques jours aux États-Unis. Mm-hmm. Là, les sites web sont plus tous égaux. Là. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé, Sylvain.
Ben, en gros, Netflix est le meilleur exemple.
Ouais.
C'est que si on recule un petit peu, là, il y a quelques années en arrière, quand Netflix a commencé à utiliser essentiellement les infrastructures des fournisseurs d'accès Internet pour diffuser son contenu, même en qualité HD, là, on parle de qualité 4K maintenant, qui était une superbe qualité, mais qui prend énormément de bande passante.
Ouais.
Mettez-vous à la place, là, des fournisseurs d'accès Internet. Ici, au Canada, on a Bell, Vidéotron, bon, etc. Eux, là, ils se sentent un petit peu lésés parce qu'ils disent, hey, il y a une entreprise qui a innové, parfait, qui a mis en place un système de vidéos sur demande, là, livré par le web. Mais c'est nous qui en faisons les frais parce qu'effectivement.
C'est nous qui payons pour l'infrastructure qui est très coûteuse.
Ils prennent toute notre bande passante. Alors, nous, on aimerait pouvoir construire des services concurrents, ce qu'ils ont fait et du côté de Bell et du côté de Vidéotron. Et ils se disent, ben c'est notre réseau. On devrait pouvoir nous prioriser notre application ou notre service au lieu de prioriser des services qui viennent de l'extérieur. Et c'est là que la chicane commence. C'est que à partir de ce moment-là, aux États-Unis, les représentations ont été faites effectivement à l'équivalent du CRTC, qui est le FCC aux États-Unis, où les entreprises d'accès Internet ont dit, écoutez, nous, on aimerait pouvoir prioriser notre contenu au lieu du contenu des
autres. En fait, c'est Netflix, encore une fois, qui vient de foutre le bordel un peu.
Netflix,
là.
Apple aussi, qui ont une grosse bibliothèque, une grosse médiathèque, en fait, de contenu que les gens fusionnent avec leur Apple TV, leur téléviseur, leur mobile, et ainsi de suite. Tous les fournisseurs de contenu.
YouTube, mais là-dedans aussi.
YouTube, Google,
Spotify,
Facebook, etc. Tous les groupes, groupes de contenu. Qui ne sont pas des médias traditionnels nécessairement, là, mais qui font dans le contenu et qui génèrent, c'est surtout la vidéo, parce que c'est là où la bande passante est vraiment sollicitée. Ça agace beaucoup de fournisseurs qui, aux États-Unis, comme au Canada, sont très concentrés. Ils fournissent l'Internet, ils fournissent la télé, ils fournissent un paquet de choses. Puis là, ils voient le numérique prendre la place, puis ils disent, ben, c'est un gros gâteau, on veut une grosse partie de ce gâteau-là. Et puis le meilleur moyen, c'est d'empêcher les concurrents d'embarquer.
OK, vous en pensez quoi de ça, de vous? Est-ce que c'est... Pour le consommateur, nous, on entend ça. Puis là, visiblement, avec vos explications, on se dit, OK, si éventuellement, ce qui pourrait satisfaire les fournisseurs de services, pardon, c'est de dire, OK, ben Netflix, le Mélanie Jolie, évidemment, ne sera pas de cet avis-là, mais on va taxer Netflix. On va dire à Netflix, ben là, si tu veux utiliser ma base passante, mettons là, que je suis un fournisseur, mettons que je m'appelle Vidéotron, je dis à Netflix, là, tu vas payer pour...
Ouais.
Mais là, Netflix, de l'autre côté, va dire, ben là, si je peux payer pour, ça va augmenter mon coût. Donc, je vais, au lieu que ça coûte 10$ par mois pour le consommateur, je vais y charger 20$ par mois. Oui, ça pourrait être ça.
Oui, c'est plus pernicieux que ça. C'est qu'il pourrait dire, Vidéotron pourrait dire, ou Bell, à Netflix, on te charge pour opérer sur notre réseau. Mais en plus, nous, on va offrir notre propre service de vidéo sur demande gratuitement. Il y a aucune consommation de bande passante qui va vous être chargée si vous utilisez notre application ou notre service de vidéo sur demande. Donc, Clubico, Crave TV, bon, etc., qui sont des services concurrents. Donc, si vous avez un service de musique illimitée ou de vidéo essentiellement sur demande, vous allez vouloir, comme fournisseur d'accès Internet, privilégier votre service au lieu de Netflix. Vous allez charger à Netflix et vous allez en plus, c'est plus pernicieux, offrir votre service gratuit bande passante. Ça s'est passé aux États-Unis d'ailleurs, mais là, ça devient à un moment donné ou un autre où on peut littéralement bloquer le service d'un concurrent sur son réseau d'accès Internet. On pourrait voir une situation où il y a une guerre entre Bell et Vidéotron, où Vidéotron pourrait bloquer littéralement des sites Internet, donc les sites web, de propriété de Bell, après RDS, et même de la diffusion sur Internet.
Oui, et c'est ça qui n'a pas de bon sens, Alain. Oui. Pour le consommateur qui devrait avoir accès à la... On parle de la planète web. Mm-hmm. Faut pas que ça change, ça, là.
Ça privatise un peu plus le réseau Internet parce que chaque fournisseur pourrait développer sa propre formule en offrant, privilégiant ses services. Évidemment, là, les gens qui sont en faveur de ce retrait des règles-là, ils disent, ben, c'est comme... On retourne dans l'Internet dans 2015. Donc, en 2015, on avait accès à Netflix quand même, donc c'est pas si grave. Le scénario catastrophe reste que si ces fournisseurs-là commencent à imposer des frais à des tiers, ça tue une certaine forme d'innovation parce que les nouveaux services qui pourraient émerger parce qu'ils ont accès à une bande passante illimitée devront débourser pour avoir accès à la bande passante. Donc, ça nuit à leur croissance, ça nuit à l'innovation. Donc, de ce côté-là, ça peut être aussi un problème. Surtout, parce que là, ça, c'est aux États-Unis seulement que ça se produit, mais l'effet au Canada, c'est que les entreprises canadiennes qui veulent percer le marché américain pourraient être pénalisées parce que les fournisseurs américains pourraient dire, ben, une entreprise étrangère, on va favoriser ton concurrent américain pour le même genre de service.
C'est ça.
Le meilleur exemple, c'est Shopify, qui est une entreprise d'Ottawa qui offre des vitrines de commerce en ligne aux PME, aux entreprises commerçantes partout dans le monde. Mm-hmm. Il y a des services équivalents américains qui pourraient être tentés de dire, ben regarde, je vais approcher Comcast, je vais dire, regarde, moi je suis américain, on pourrait être partenaire, puis imposer des frais à Shopify. Puis ce serait une façon aussi de tuer l'innovation à l'extérieur et de nous affecter ici au Canada.
Ouais. On a un auditeur qui nous appelle, là. Alain, bonjour, vous êtes dans le domaine de l'informatique, Alain, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Je travaille en informatique, moi, puis ce que je peux vous dire, c'est qu'aux dernières nouvelles, puis à ma connaissance, l'Internet, c'est déjà un principe d'utilisateur-payeur. C'est-à-dire que lorsqu'on achète, en tant que consommateur, un forfait, par exemple, chez Vidéotron ou chez Bell ou peu importe aux États-Unis, on paye pour 50 gigs de données ou pour 100 gigs de données qui vont nous coûter plus cher ou sinon pour 150 gigs de données qui vont nous coûter encore plus cher. Donc, c'est pas un Netflix de payer ça ou à Spotify ou à peu importe qui. C'est au consommateur, puis c'est déjà comme ça que ça fonctionne. Le consommateur paye déjà plus cher s'il va écouter plus de films chez Netflix. Donc, à quelque part, je comprends pas pourquoi est-ce que les entreprises fournisseurs de services Internet veulent facturer en plus de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau de ceux qui fournissent le contenu, parce qu'ils facturent déjà ceux qui consomment le contenu.
Mm-hmm. C'est vrai.
C'est un bon point.
C'est vrai.
Oui.
Et d'ailleurs, okay, vous avez raison. Puis déjà qu'ils nous farcissent aussi beaucoup de pubs. Là. Je pourrais vous dire là, que tu payes, que ça soit pour illico ou pour... Puis tu tapes en plus pour tout TV. Tu as de la pub pareil. Là.
Ben, oui. C'est un peu le fait de la pub parce qu'en même temps, les gens s'abonnent à Internet parce qu'il y a du bon contenu. Et là, on veut limiter le contenu pour payer pour la bande passante. Donc, c'est un peu...
Le consommateur le paye déjà pour son utilisation de plus. Si moi, par exemple, je veux écouter une série au complet, mettons, je veux écouter Breaking Bad au complet d'un bout à l'autre là, sur Netflix, ben à ce moment-là, je vais avoir consommé un paquet de gigs de données que je vais payer.
Oui,
c'est de toute façon. Admettons que Vidéotron, maintenant, dit, écoutez, Breaking Bad, là, vous pouvez l'avoir sur Netflix en anglais. Si, admettons que j'ai les droits, moi, j'achète les droits de Breaking Bad sur mon club illico, je vais vous offrir sur mon réseau, si vous signez avec moi comme fournisseur d'accès Internet, je vous offre cette série-là gratuite. C'est-à-dire que je ne vous charge pas de bande passante.
Non, je paye 10$ par mois, fait que j'ai plus besoin de te payer 10$?
Non, mais ça ne sera pas calculé dans vos gigaoctets téléchargé.
Ah, au niveau de... parce que je paye 10$ pour le service, mais j'ai Internet illimité que je paye aussi plus.
Si vous n'avez pas illimité, comme dit monsieur, vous avez payé
t'as pas le choix, là, Sylvain. Ah. Aujourd'hui, là, moi, je me suis rendu compte, écoute, ça va vite, là.
Ben oui, ça va vite. C'est évident.
Ça va vite, sauf que vous payez en conséquence pour votre Internet illimité. Vous payez un prix plus cher que celui qui va consommer seulement 5 gigs, par exemple.
Clairement, c'est sûr.
Mais c'est ce que le CRTC...
C'est une façon détournée, je crois, pour les fournisseurs de services Internet de faire encore plus d'argent pour dire on est les pauvres victimes des fournisseurs de contenu. Donc là, on va se trouver à facturer du côté du fournisseur de contenu et du côté du consommateur de contenu.
Ouais, mais moi, je pense qu'Alain a raison aussi. Il y a ça, mais de l'autre côté, moi, je pense que aussi il y a ceux-là, mais il y a tous les autres sites. Je veux dire, tous ceux qui sont sur Internet ne savent plus comment faire payer plus le consommateur. Moi, c'est ça que je vois. Or, aujourd'hui, à la rigueur, dans la notion de neutralité du web, ce que j'aime, c'est la notion que ça devrait être un territoire où il y a quelque chose où c'est gratuit, quelque part, où t'as encore le droit, où tout le monde peut y aller, que tu sois pauvre, que tu sois riche. Cet accès-là doit être gratuit.
Ben, il faut qu'il soit garanti. Sinon, les grandes maisons de production, les grandes maisons de médias ou encore les grands propriétaires de réseaux vont commencer à faire de je sais pas si on peut employer le mot de la curation, là, created en anglais. Ils vont commencer à sélectionner des contenus qu'on a le droit de voir, puis d'autres qu'on n'a pas le droit de voir.
Exactement. Donc, c'est très dangereux, ça.
Ben oui, c'est le danger qui nous guette à l'heure actuelle. Ou, par contre, ils vont proposer des contenus qu'eux vont vouloir vous proposer en vous chargeant pas pour, mais en chargeant le compétiteur de ce contenu-là. Voilà. Ouais. Et ça devient grave.
Alain? C'est sûr qu'en laissant les entreprises privées décider, ça va transformer le réseau vers des offres privées, des offres différentes par fournisseur. On peut revenir à une époque où on se connectait au serveur d'une université pour avoir accès à Internet. Là, c'était évidemment ouvert et libre, mais là, c'est un méchant débat parce qu'on ouvre une autre porte complètement sur à qui appartient le réseau Internet. Est-ce que c'est un service public ou est-ce que c'est un service privé?
À qui appartient Internet? Est-ce que c'est un service public ou privé? Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre de la part des auditeurs. Sylvain, t'en penses quoi?
Ben, les Américains vont vous dire qu'ils...
Ben là, c'est en train d'être privé pas mal. Là.
Ben, ils l'ont inventé et ils influencent le World Wide Web, évidemment, qui est la toile entière alentour de la planète à partir d'une décision comme celle-là. Parce que ça va affecter tout le monde à un moment donné ou à un autre. Là.
C'est clair. Alors,
on se branche à eux pour se brancher sur les réseaux mondiaux. Donc.
Alain, t'en penses quoi?
Ben, ce service public, certainement, parce que la plupart... On parle de dossiers médicaux en ligne, on parle d'accès citoyen en ligne, on parle de données ouvertes. Toute la prochaine génération de services publics vont reposer sur Internet. Puis là, tout d'un coup, on se dit, on va peut-être laisser 4-5 grandes entreprises américaines décider comment le réseau fonctionne.
Déjà qu'on parle du GAFA, là, les fameux Google, Apple, Facebook et l'autre, c'est quoi? L'autre
Amazon.
Amazon. Je pense qu'il y a assez de monde. Oui, on pourrait... GAFIN, on pourrait faire un long mot, finalement.
Oui.
Je pense qu'il y a assez de marge pour l'entreprise privée pour faire beaucoup de milliards sur Internet avec les consommateurs. On a-tu besoin, en plus, d'en faire officiellement une TALE privée? Enfin, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Vous pouvez vraiment penser complètement différemment. On s'échange ici notre opinion. Est-ce que vous êtes prêt à payer un peu plus pour naviguer sur Internet? Parce que ça va être ça, là, ultimement, j'ai l'impression. Est-ce que, puis la grande question, à qui appartient Internet? Est-ce que ça doit rester public? Est-ce que c'est correct que ça devienne de plus en plus privé? 514-790-9850. Et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Nous avons Alain au bout du fil. Un autre Alain. Bonjour Alain, comment vous voyez ça? Je veux juste rappeler que je suis en compagnie d'Alain McKenna desaffaires.com et de Sylvain Patry de chez Host Papa. Vous Alain, comment vous voyez ça, ce qu'on appelle la neutralité du web? Pour vous, est-ce que le web doit être une affaire publique ou c'est correct si ça devient de plus en plus privé? Et êtes-vous ultimement d'accord pour payer plus si ça vient avec?
Je ne suis pas d'accord pour payer plus, même que j'ai une mentalité plus conservatrice, protecteur. Il faudrait presque nationaliser ou avoir une régie qui ait une surveillance sur l'Internet. Il faut le voir comme une infrastructure routière. L'Internet, c'est comme une infrastructure routière. Là, tout le monde paye pour cette infrastructure-là par les biais de Vidéotron, Bell et les autres grands constructeurs qui la maintiennent.
Ouais.
Sauf que c'est comme si on était indiqué aujourd'hui, on enlève la neutralité. Donc, si Walmart... a beaucoup de profits. Le monde va beaucoup sur Walmart, utilise beaucoup la route qui va vers Walmart. Si toi, tu vas aller chez Walmart aujourd'hui, maintenant, en enlevant la neutralité, je vais te dire, je vais te charger plus cher vu que tu magagnes plus la route, tu l'utilises plus. Si tu veux l'avoir gratuit, mais tu vas devoir marcher. Alors, c'est exactement ça. L'Internet est comme une infrastructure routière qui est utile à tout le monde.
Ouais, mais vous savez qu'il y a des péages sur les autoroutes aussi.
Mm-hmm. Je suis contre ça aussi. Je veux dire... C'est public, c'est des choses publiques qui devraient être protégées et presque nationalisées. Les routes, on les a enlevées, les péages, justement pour ça. En tout cas, c'est ma vision.
On est en train de les remettre, je sais pas si vous le savez, là, mais...
Oui, je le sais, mais je suis contre ça. C'est pas parce qu'on le fait qu'on est nécessairement obligé d'être en accord.
Mais en même temps, c'est une belle analogie, Alain. Merci que vous nous ameniez parce que, en fait, ces fournisseurs Internet, chez nous, qu'ils soient Bell ou qu'ils soient Vidéotron, le disent, Sylvain Patry le rappelait tout à l'heure, ils nous disent, ben, regardez, on est plus capable de payer pour cette route-là. Elle nous coûte un bras, puis on est tous les seuls à payer, puis là, on a de la concurrence déloyale qui vient d'ailleurs. Y a-t-il moyen d'avoir un PPP ici?
Ben, écoutez, c'est évident qu'on veut, on est déjà ici, là, au Canada, on se fait charger plus pour notre accès Internet qu'à peu près n'importe où dans le monde.
C'est incroyable.
Surtout
pareil,
au niveau du mobile, là, du mobile, là, c'est effrayant. Alors, évidemment, on veut pas payer plus cher. Mais on a un pouvoir comme consommateur, là. C'est pas comme si on était totalement démunis.
Tu veux vraiment?
Oui, on en a un.
C'est quoi notre pouvoir, c'est
là? La communauté, on est tous des internautes, hein? On est sur le web et on a carrément un droit à un service pour lequel on paie pour. Vous n'êtes pas satisfait du fournisseur avec lequel vous êtes. Changez de fournisseur.
Ils sont deux.
Ouais, mais
tu vas de l'un à l'autre.
Il y a beaucoup d'indépendants.
Et le CRTC a ouvert beaucoup. Et les indépendants, le pire, c'est qu'ils peuvent se servir des infrastructures des grands. Donc, à ce moment-là, c'est quand même pas si mal. À l'heure actuelle, il y a des petites entreprises qui sont en train d'offrir du service d'accès à grande vitesse dans la région de Montréal, un peu partout au Canada.
Et je vais vous raconter une affaire. Mais il y a quand même beaucoup d'abus.
Oui, bien écoutez.
Et moi, j'ai un fournisseur d'accès depuis des années. Okay. C'est le seul. C'est un petit indépendant. C'est le seul qui est devenu pour moi le plus gros. Il charge un bras parce que c'est le seul. Il a le monopole dans le coin. Là, écoutez bien ça. Il y a un mois, quelqu'un de bien gentil m'appelle pour me dire « Ah, Madame Maréchal, écoutez, on a regardé ça, vous êtes une bonne cliente. On vous offre 25 $ de moins par mois, ça fait-tu votre affaire? » Écoute, j'ai failli m'étouffer. Parce que je me suis dit, ben voyons, attends, j'ai-tu appelé puis je m'en souviens plus? Non, je me suis pas plaint, j'ai pas essayé de changer. Parce que je savais très bien, pour avoir déjà fait l'exercice d'appeler puis leur dire, écoutez, je trouve que ça coûte cher puis moi, je suis pas là souvent, c'est bon. Puis là, ben, je dis, ça se peut-tu qu'il y ait un nouveau joueur dans votre coin? Du oui, bon, il y a Belle, apparemment, là, qui s'en vient peut-être, là, mais intéressant. Ben oui. Mais voyez-vous comment ils sont? Ça veut dire qu'avec un gros lus de 25$ juste sur mon compte à moi, imaginez là, ce que ça fait en bout de ligne. Alors, c'est clair qu'il y a de l'abus.
Il y a ça, mais aussi, le CRTC a aussi pris des décisions dans les derniers mois, disons, les dernières années, au profit des fournisseurs indépendants. Ça a baissé beaucoup leurs coûts, parce que justement, ils achetaient comme grossistes.
Ouais, est-ce qu'ils nous l'ont donné?
Comme Vidéotron et Bell.
Ils nous l'ont pas forcément redonné.
Les indépendants, plusieurs ont changé leur tarification. Les forfaits illimités ont explosé depuis un an à cause de ça, parce que les tarifs ont baissé dans certains cas de
90%. Mais je pense que l'élément concurrence...
Ah, naturellement, ça, c'est toujours le premier code, c'est définitif.
Si on revient à la neutralité du web, et que vous avez un fournisseur d'accès Internet qui ne vous offre pas essentiellement cette neutralité-là, ben vous pouvez changer. C'est-à-dire que si Vidéotron se met à bloquer les sites de Bell, puis que Bell se met à bloquer les sites des propriétés de Vidéotron, ben écoutez, vous allez vers un indépendant qui, lui, bloquera rien. Tout simplement, vous allez aller vers un autre fournisseur d'accès Internet.
Mais est-ce qu'il y en a tant que ça?
Ben, il y en a quelques-uns au Québec. Au Canada, il y en a quelques-uns.
Nommez-en donc quelques-uns.
Il y a E-Box à Montréal, il y a B2B2C, il y en a d'autres aussi.
Je connais plus dans la région de Toronto, il y en a plusieurs. Là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a TELUS aussi qui offre de l'accès Internet, il y a Cogeco qui offre de l'accès Internet aussi. Écoutez, dans des grandes parties des grandes régions, là, on n'est pas nécessairement limité. Et il y a des fournisseurs d'accès Internet. Il y a Shaw aussi qui est gros au Canada, bon, etc. Donc,
on a Stéphane avec nous, je pense. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ben moi, c'est pas compliqué. Dans le fond, ce que j'ai dit, c'est la première fois que j'appelle dans une ligne publique, là, mais j'écoute depuis plusieurs semaines. Puis, moi, je suis pas d'accord avec ça, là, les histoires de frais d'Internet. Je pense qu'on paye déjà des bandes passantes, comme que plusieurs ont dit plus tôt. Moi, je paye déjà, mettons, Netflix, Google, Apple Music. On paye déjà pour ce qu'on veut consommer. Si en plus, il faut payer pour la bande passante, pour des consommations qu'on va faire des recherches sur Internet. T'sais, dans le passé, moi, je pense qu'on est rendu une société qu'on se fait habituer à consommer plein d'affaires. On se fait habituer. Le gouvernement nous laisse s'habituer avec ça, nous embarque dans une machine que les gouvernements vont faire des recherches Internet, les cliniques. Puis un coup que tout le monde est habitué à ça, ben là, ils vont charger le monde. Ça, c'est bon pour que la semaine passée, en fin de semaine, j'écoutais justement les affaires de boissons gazeuses. Ça fait des années, ça existe. Là, c'est rendu qu'ils veulent nous taxer pour ça. Les cigarettes, le pot. C'est quoi? On est aveugle de se faire dicter à quelle heure qu'on va se lever le matin, puis à quelle heure qu'on va se coucher le soir. C'est un peu comme ça que je vois ça. C'est presque une dictature. Là. Ils nous imposent plein de choses. L'Internet, avant qu'on voulait faire des recherches, on allait à la bibliothèque, c'était gratuit. C'est-à-dire, quand t'étais dans ta ville, t'allais faire. Là, l'Internet existe depuis une quinzaine d'années, qui tout le monde va voir. Fait que quand tu vas faire des recherches, tu vas sur Internet, c'est gratuit. Ça a toujours été comme ça. Puis là, tout d'un coup, ils veulent nous charger pour les recherches qu'on fait. On s'en va où avec tout ça, là, je veux dire, c'est... Quel genre de société qu'on est en train de créer en faisant...
Ben, c'est pour ça qu'il y en a aussi qui parlent d'un Internet à deux vitesses. Puis là, on pense au système de santé à deux vitesses, c'est-à-dire un système pour les pauvres puis un système pour les riches.
Un accès public plus lent.
Et donc, tu auras des gens qui vont être en moyen, qui vont avoir accès à beaucoup plus de contenu. Puis ben, les autres, arrangez-vous que le peu qui restera. Il sera gratuit.
Il
faut absolument qu'on arrête ça.
Bon, il ne faut pas qu'il y ait un système à deux vitesses, les pauvres et les riches.
Mais non.
L'Inde, d'ailleurs, qui a évidemment... une population extrêmement pauvre, là, surtout dans les grands centres, a statué que la neutralité du web est leur priorité. Donc, c'est-à-dire qu'à la grandeur du pays, on parle de 1,2 milliard de personnes.
Comment ils voient ça?
En Chine, évidemment, là, c'est le...
On le sait pas.
Non, c'est le contraire de la neutralité. En Russie, c'est le contraire de la neutralité.
Aux États-Unis aussi, fait que ça commence à faire bien du monde.
Ils bloquent des contenus. Alors, on voit que les grandes économies du monde... Autre que l'Inde, en ce moment, on fait une mouvance là, vers bloquer cette neutralité-là.
C'est surtout ça le problème, en fait. C'est la notion de bloquer des contenus.
Parce qu'on
paie déjà selon notre bande passante, on paie déjà selon le volume de données qu'on veut consommer. Mais si on arrive avec des forfaits où on dit que tu as le droit à 37 web par mois, par opposition à un autre forfait qui dit tu as droit à 100 sites web par mois, là, on bloque des contenus. Et c'est là où la question de neutralité devient plus inquiétante. Là.
Incroyable, pareil. Est-ce qu'on peut dire que la neutralité, c'est fini?
Pas au Canada.
Pas encore.
Et ni dans la communauté européenne non plus.
Non, mais je disais que les Européens s'enlignent pas mal ces politiques américaines, puis je pense que pour nous, ça ressemble pas mal à ça aussi. Là.
Ben, c'est dur à dire, parce que le CRTC, depuis quelques mois, en tout cas dans le passé récent, était quand même assez, a fait sa job de chien de garde. En fin de compte, on a vraiment pris des décisions à la faveur du consommateur, tant dans le filaire que dans le sans-fil. S'il continue comme ça, on va être bien protégé. Le premier ministre a déjà dit, le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a déjà dit clairement, nous, on est pour la neutralité d'Internet. Le ministre de l'Industrie dit la même chose. Donc ici, il y a une volonté politique, en tout cas, de dire, nous, on veut pas mettre le doigt dans l'engrenage de ce que la FCC a fait en fin de semaine.
Mais quand même, un des gros... Oui, Sylvain?
Oui, mais attention, aux États-Unis, la bataille n'est pas finie. Hein? Alors, non. Il y a quand même un très, très fort lobby en faveur de la neutralité du web. Mm-hmm. Et si Trump devait être renversé d'ici quelques années, là, aux prochaines élections, et que la majorité change au Congrès, les démocrates sont pour la neutralité du web. C'est Barack Obama qui a passé, évidemment, la première règle en 2015. Donc, on pourrait revoir une certaine neutralité dans le futur.
C'est certainement un des dossiers dont on va parler en 2018. Merci beaucoup à tous les deux. Pardon, Sylvain Patry, expert en technologie, vice-président exécutif chez Host Papa. Alain McKenna, merci beaucoup d'avoir été là. Journaliste techno pour lesaffaires.com, entre autres. Et ton fameux livre que je conseille à tout le monde.
Mon téléphone coûte vraiment trop cher.
C'est une maudite bonne question.
De plus en plus.
On s'arrête ici tout de suite après la pause. Sylvain Cossette est avec nous. Restez là, tout le monde.